France Info.
Bonsoir, la suite de notre édition spéciale Donald Trump qui quitte donc l'accord nucléaire iranien au risque de se mettre à dos la communauté internationale et de raviver le feu au Proche-Orient. Nous allons décrypter ce soir avec nos invités ce que signifie cette décision majeure prise par le président américain dans Tout est politique sur France Info jusqu'à 22h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT avec nos invités. Bonsoir Jean-Baptiste Djebari.
Bonsoir.
Vous êtes député La République en marche de Haute-Vienne et vice-président du groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée nationale. Avec nous également Sébastien Chenu, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole du Front national et député du Nord. Également invité, bonsoir à vous, François Colcombé. Vous êtes président de la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. On écoute aussi également Bob Vallier, bonsoir. Vice-président adjoint du Parti démocrate en Europe. À mes côtés également, bonsoir Gilles Bornstein.
Bonsoir,
mon complice éditorialiste sur France Info. Nous aurons d'autres invités dans la deuxième partie de cette émission. Nous rejoindrons également au cours de cette heure Grégory Phillips, notre correspondant à Washington. Vos réactions, comme d'habitude, sur Twitter, hashtag TEP. Alors, il l'avait promis, il l'a donc fait. Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien, accord arraché en 2015 au terme d'un feuilleton de près de 2 années de difficiles négociations et multiples rebondissements. Alors, voici l'allocution du président Trump il y a à peine plus d'une heure, extrait.
Il me paraît clair que nous ne pouvons pas empêcher la bombe nucléaire iranienne en vertu de l'accord pourri qui a été signé. Donc l'accord iranien est fondamentalement vicié. Donc si nous faisons rien, nous savons exactement ce qui se passera. En très peu de temps, le principal parrain du terrorisme sera sur le point d'acquérir l'arme la plus dangereuse au monde. Par conséquent, j'annonce ce soir que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer l'ordre présidentiel pour remettre en place les sanctions contre le régime iranien.
Voilà donc cette déclaration de Donald Trump. Premier commentaire avec vous, Jean-Baptiste Djebari de La République En Marche. Est-ce que vous validez ce retrait américain ?
Non, moi, je n'ai pas validé, mais j'observe que c'est à la fois effectivement une promesse de campagne de Trump. C'est le fruit d'un style Trump. On connaissait l'isolationnisme, l'interventionnisme américain un peu successif. On a le Trumpisme qui,
aujourd'hui... Il y a des mots Trump aussi.
Oui, mais il s'affranchit de toutes les pratiques diplomatiques, pour le meilleur parfois, a-t-on l'impression, en Corée du Nord, et pour le pire ici avec l'Iran. Sur le fond, il considère que l'accord de Vienne est vicié dans la mesure où l'Iran entretient son programme balistique, dans la mesure où l'Iran aurait un rôle déstabilisateur dans la zone, notamment via le Hezbollah libanais en Syrie.
Sébastien Chenu, même question. Réaction de votre part pour le Front National ?
Je crois que Donald Trump se trompe. Cet accord, on pouvait en reparler, il n'était peut-être pas parfait, mais il permettait d'éloigner le conflit. Et je crois que Donald Trump, en faisant ainsi, fait une double erreur. D'abord, c'est une provocation un peu forte vis-à-vis d'un certain nombre de conservateurs iraniens qui vont peut-être faire un peu dans la surenchère. Et puis vis-à-vis de ses partenaires, que sont la France, que sont la Grande-Bretagne. Je rappelle que moi, j'avais condamné les frappes en Syrie, mais il se trouve que la France est partenaire, du coup, des États-Unis. Eh bien, je crois que c'est une mauvaise manière aussi qui est faite à ses partenaires. Il met finalement tout le monde dans une situation difficile, Donald Trump.
Oui, François Colcombé, est-ce que cette décision américaine ouvre une période d'incertitude, voire plus, dans la région, dans la zone ?
Bien entendu qu'elle ouvre une période d'incertitude, mais la période d'incertitude, elle a commencé depuis très longtemps.
Depuis la nuit des
d'accord,
temps.
D'accord, moi je faisais partie de ceux qui criaient casse-cou lorsqu'on a fait l'accord, et j'ai été de ceux qui ont incité, j'ai été parlementaire à l'époque, etc., qui ont incité Fabius à faire que la France ne s'est pas couchée tout de suite, comme voulait le faire Obama, pour des raisons qui étaient simples. Il ne voulait plus être impliqué dans le Moyen-Orient, et donc il abandonnait les Européens. La plupart des autres Européens voulaient faire des affaires. Et l'aspect central, qui est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce pays, c'est un aspect, on a complètement négligé le fait que dans quelques temps, avec cet accord, l'Iran a le droit d'avoir la bombe atomique. Et on aurait dû mettre dans l'accord que l'Iran ne peut pas avoir la bombe
donc
atomique.
Donc vous validez quelque part la position américaine
ensuite,
ce soir.
Ensuite, je continue. Oui. Ensuite, nous avons publié l'année dernière, à propos des élections, un livre qui s'appelle « Où va l'Iran ?». Il y a un chapitre entier sur le double jeu de l'Iran, à savoir que tout en faisant les yeux doux à l'Occident, il continuait, ou il se donnait les moyens d'acquérir la bombe atomique. On l'a écrit, on a donné l'exemple. C'est d'ailleurs un vice-président de la communauté européenne qui a écrit l'article. C'est pas un galopin quelconque qui n'y connaît rien. Donc si vous voulez.
En général, c'est mauvais signe. Hein. Bah, peut-être. C'est un vice-président de l'Union européenne
c'est très mauvais signe. Qui avait une vision différente des Français. Et qui était de droite, pour vous rassurer.
Je suis pas sûr que ça me rassure.
En tout cas, si vous voulez, moi je suis de ceux qui voyaient très bien qu'on allait dans le panneau. Et je dois dire, entre nous soit dit, qu'il vaut mieux peut-être aborder franchement le problème avant de se retrouver, comme dans quelques années, devant un pays qui aura la bombe atomique et qui voudra s'en servir. Et qu'est-ce qu'on fera dans ce cas-là?
Alors, on va continuer ce tour de table avec vous, Bob Vallier, avec Gilles Bernstein. Mais tout d'abord, nous allons faire un petit détour par le Stade de France pour la finale de la Coupe de France de football qui oppose les Herbiers, club vendéen de 3e division, au Paris Saint-Germain. Avec vous, Xavier Monferrand, comment est-ce que ça démarre?
Eh bien écoutez, ça démarre dans quelques instants, avec un peu de retard visiblement,
c'est dans l'ambiance,
un peu de retard avec le protocole, puisque le président Macron a pris bien son temps pour saluer chaque joueur, du coup le coup d'envoi a été reporté de quelques minutes, mais ça va partir vraiment dans quelques instants.
Allez, on vous retrouvera tout à l'heure pour savoir ce qui se passe dans cette finale très attendue, mais pour l'heure il est 21h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous Marie Rouarch.
L'Iran est prêt à reprendre ses activités nucléaires. Réaction immédiate du président iranien à la déclaration de Donald Trump. Le président américain retire les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et annonce le rétablissement des sanctions contre l'Iran. Une décision saluée par Israël et l'Arabie Saoudite. Regret de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Moins de TGV en circulation demain au 16e jour de mobilisation des cheminots contre la réforme de la SNCF. Un train sur deux selon la direction. La moitié des TER et des Transiliens circuleront. Également un tiers des intercités. Un étudiant de 20 ans mis en examen pour dégradation de biens et violence après le défilé de la fête à Macron dimanche dernier à Paris. Le jeune homme est soupçonné d'avoir dégradé un car régie de Radio France et d'avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre en marge du rassemblement. Il a été placé en détention provisoire. L'incompréhension d'une mère de famille strasbourgeoise après la mort de sa fille en décembre dernier. Le SAMU est soupçonné d'avoir mal géré la prise en charge de cette jeune femme de 22 ans. Dans l'enregistrement de son appel au secours, on entend l'opératrice la renvoyer assez brutalement vers SOS Médecins. La victime est décédée quelques heures plus tard en réanimation. Les hôpitaux de Strasbourg ont ouvert une enquête administrative. Le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France légèrement retardé au Stade de France. 4000 supporters des Herbiers ont fait le déplacement depuis la Vendée pour voir leur équipe de nationale, l'équivalent de la 3e division, affronter un gros de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain.
France Info. Édition spéciale, Jean-François Aquili.
Et nous sommes en ligne avec vous, Grégory Phillips, notre correspondant à Washington. Bonsoir à vous, Grégory.
Bonsoir à tous.
Alors, comment cette décision attendue, quelque part, est accueillie à Washington?
Écoutez, plutôt bien par les milieux républicains et conservateurs. On attend une prise de parole dans une heure de John Kerry, l'ancien secrétaire d'État démocrate qui avait conclu cet accord avec les Iraniens. On imagine qu'il sera évidemment beaucoup plus critique. Je retiens en fait trois choses de l'intervention de Donald Trump, ce discours de 11 minutes depuis la diplomatic room à la Maison-Blanche. D'abord, à un moment donné, il dit « je tiens mes promesses, je fais ce que j'ai dit », et ça, c'est un message clairement à son électorat. Ensuite, il cite la Corée du Nord comme étant un exemple de réussite diplomatique. Et il annonce d'ailleurs que son secrétaire d'État, Mike Pompeo, est en route pour Pyongyang et qu'il y sera dans l'heure qui vient. Donc pour Trump, c'est la preuve que sa diplomatie coup de poing fonctionne. Et puis le troisième détail qu'on retient de cette allocution du président des États-Unis, c'est tout à la fin, quand il s'en va, on voit son nouveau conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, qui a un énorme sourire sourire. Et il est très probable que Bolton et Pompeo, qui désormais entourent le président, ont pesé dans la décision qui a été annoncée aujourd'hui.
Grégory Félix, Philips, les mots de Donald Trump à l'égard de l'Iran sont assez durs. Hein. Il parle d'un régime terroriste qui a tué des Américains, volé la richesse de son peuple, a cherché à fabriquer l'arme nucléaire. Est-ce à dire que dans l'esprit de Donald Trump, l'Iran devient le nouvel ennemi de l'Amérique, comme ce fut le cas jadis en 79 sous Carter?
Oui, alors c'est pas nouveau, et d'ailleurs il dit, vous savez, ce pays où l'on chante encore dans les rues lors de la prière du vendredi, mort à l'Amérique. Donc ça, cette rhétorique de Trump n'est pas inédite. En revanche, ce qui est nouveau, c'est quand il dit on a la preuve que l'Iran nous a menti sur son programme d'enrichissement nucléaire, reprenant ainsi les propos tenus il y a une semaine par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ça, c'est nouveau quand Trump dit on a la preuve que l'Iran nous a menti et on ne peut pas laisser les villes américaines sous la menace d'une bombe iranienne. Ça aussi, c'est assez nouveau de mettre en avant comme ça la sécurité des villes ici aux États-Unis.
Une dernière question avec vous. Les Américains, la rue américaine, est-ce que ce sujet le concerne les citoyens américains ou c'est peut-être éloigné de leurs préoccupations?
Écoutez, ce qui concerne les Américains, c'est effectivement que c'est une promesse de campagne de Trump qui est tenue. Et ça, c'est pas la première. Le climat, les accords sur le climat de Paris, promesse tenue. Le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, promesse tenue. L'Iran, promesse tenue. Donc on voit en tout cas un président qui tient ses promesses de campagne. Et c'est évidemment pas innocent quand on remarque que aujourd'hui, on est à 6 mois, jour pour jour, des élections de mi-mandat qui seront évidemment très importante pour l'actuel locataire de la maison.
Merci Grégory, nous vous retrouvons tout à l'heure dans une demi-heure pour d'autres précisions en direct de Washington. Bob Vallier, promesse tenue, disait à l'instant Grégory Phillips. Je rappelle que vous êtes membre du Parti démocrate. Hein.
Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Grégory, là, donc par rapport à la situation aux États-Unis. Donc, je crois que cette décision est une déception, mais ce n'est pas surprenant finalement. C'est un mauvais précédent pour les États-Unis, et il y aura des conséquences importantes et immédiates pour l'Iran. Grégory a mentionné John Bolton, qui est très important, et il a dit il y a quelque chose de nouveau ici et de nouveau ici. C'est pas nouveau, au fait. C'est exactement la même rhétorique qu'on a entendue pendant la période Bush, qui était responsable, qui était l'architecte principal de la guerre en Irak. C'était John Bolton. Donc, ce qui est nouveau est simplement, on a traversé la frontière entre Irak et Iran.
Vous dites quoi? C'est W. Bush le retour, c'est ça?
J'espère pas, mais peut-être j'espère aussi.
Gilles Bornstein, le président Emmanuel Macron et le président Trump se sont entretenus au téléphone. Il y a un tweet de notre président à nous qui dit, grosso modo, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l'accord. Voilà.
Ben voilà, c'est le problème, c'est qu'il en est amené à regretter. Et alors vous parlez de la marche du monde, vous faites, c'est noble. Moi, je parle de politique. Et politiquement parlant, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour le président Macron. Évidemment, c'est pas de sa faute. On ne peut pas lui, il n'y est strictement pour rien. Mais il s'était beaucoup engagé pour le respect de cet accord. Il avait laissé entendre que grâce à ses bonnes relations avec le président Macron, grâce à son amitié avec le président Macron, eh bien, peut-être il pourrait le faire changer d'avis. Et cette décision, d'une certaine manière, le remet à sa place de chef de la 5e ou 6e puissance mondiale. Alors c'est beaucoup, mais ce n'est que ça. Il n'a que la force du pays qu'il dirige et son charme, son charisme, son brio, sa jeunesse ne suffisent pas, à faire changer ses partenaires d'avis. C'est la 3e fois qu'il l'éprouve. Grégory l'a dit à l'instant même, il nous avait laissé entendre qu'il parlerait à Trump et que Trump renoncerait à sortir des accords de Paris. Bah, Trump est sorti des accords de Paris. Pour le transfert de l'ambassade, c'était la même chose. Il devait le faire renoncer. L'ambassade va être transférée, je crois que c'est lundi, de Tel Aviv à Jérusalem. Là, c'est la 3e fois. Ça fait beaucoup. Alors reste l'accord, je crois, sur le protectionnisme. Oui. Reste la présence des États-Unis en Syrie, où il a ici dit qu'il espérait, qu'il a même dit qu'il avait fait changer d'avis le président Trump. On verra. Demain et après-demain, il va à Berlin pour un discours important sur l'Europe. On sait qu'il a des projets européens qui n'ont pas l'air de plaire à tous nos partenaires européens. Voilà, donc Emmanuel Macron veut beaucoup de choses, prétend obtenir beaucoup. Il obtient, force est de constater qu'il obtient un peu moins que ce qu'il espère.
Oui, Sébastien Chenu, vous voulez intervenir?
Oui, évidemment, je partage l'analyse de Gilles Bernstein. C'est vrai, je ne lui en fais pas le procès, mais c'est vrai que la visite d'Emmanuel Macron n'a servi strictement à rien vis-à-vis du président Trump sur ce dossier-là. Mais je note aussi que le président Trump fait une comparaison avec la Corée. Moi, je crois que ce n'est pas la même chose. L'idée de faire plier ses alliés, on verra si la Chine, si l'Inde plie. Moi, je ne suis pas du tout sûr que la Chine et l'Inde plient, et je pense même qu'ils vont continuer à commercer avec l'Iran côté pétrole. Donc, il faut savoir ce que la France veut faire. Et puis j'ai quand même noté aussi que Poutine avait indiqué qu'il était d'accord, lui aussi, pour revoir un accord, pour aller plus loin, etc. Donc peut-être que la solution, puisqu'elle n'a pas pu trouver une ébauche, en tous les cas, en France, eh bien peut-être que la solution se trouve du côté de la Russie de Poutine, de la Chine ou de l'Inde, qui, eux, visiblement, auront peut-être plus de poids, malheureusement, que la France et qu'Emmanuel Macron.
Alors, Jean-Baptiste Djebari, je suis sûr que vous voulez répondre à votre collègue de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu.
C'est pas une attaque, hein,
cette visite,
c'est un constat. Les relations internationales, c'est évidemment le jeu du droit et de la puissance, et nous sommes en plein dedans. Et pour autant, il faut un volontarisme politique fort. Ça pourra s'exprimer demain en Europe. Ça s'exprimera évidemment dans le groupe qu'on appelle le P+5. P5+1 qui regroupe la Grande Bretagne, l'Allemagne, la Russie, la Chine, et tout ça devrait être traité dans ce cadre-là. En revanche, les risques qui sont encourus sont forts. C'est le risque de nucléarisation de la zone qui est quand même fort. C'est l'Iran d'abord, c'est la Turquie, l'Arabie Saoudite, et on sait que ça peut évidemment, par le jeu des alliances, déboucher sur un conflit entre Israël et l'Iran, et puis évidemment par ce jeu-là, être un conflit beaucoup plus global. Donc les enjeux d'aujourd'hui sont excessivement importants.
François Colcombe, il y a un risque qui pèse sur la zone.
Je ne suis pas de cet avis. Je pense que Macron a été courageux. Il y avait effectivement des coups à prendre. C'était pas sûr que ça aboutisse. Ceci dit, il l'a fait. Et moi, en tant que Français, je trouve que c'est une démarche tout à fait appréciable. D'autant que c'est une démarche dans la suite de ce qu'avait essayé de faire Hollande avec Fabius, qui, je le répète, ont tout fait pour qu'à l'intérieur de cet accord, il y ait autre chose que ce qu'il y a.
C'est vrai.
Voilà. La France l'a fait. La France, d'ailleurs, a toujours dit que cet accord n'était pas suffisant. Et d'ailleurs, Macron l'a dit, et ce qu'il a proposé...
Pas toujours. Sarkozy l'avait pas dit à l'époque. La France n'a pas toujours eu le même discours.
Je parle du septennat précédent. La France, jusqu'à présent, a un comportement qui est suivi. Et en tout cas, Macron a été courageux, à mon avis, de le faire. D'autant qu'avec cet acte de courage, il oblige ses paresseux et ses couards d'autres Européens qui, en réalité, ne veulent pas se mouiller dans cette affaire, à sortir du bois.
C'est pour ça que je dis que la solution vient peut-être
à sortir du bois.
Et enfin,
les discussions, je l'espère, vont continuer. Et Macron est positionné pour être celui qui dira des choses qui sera écouté.
Nous allons revenir sur l'intervention d'Emmanuel Macron. C'était donc devant le Congrès américain, juste après le rappel de l'info à 21h20 sur France Info, avec vous, Marie Rouarche.
Londres, Paris et Berlin appellent toutes les parties de l'accord sur le nucléaire iranien à continuer à respecter le texte signé en 2015. Réaction retrait des États-Unis de cet accord annoncé ce soir par Donald Trump. Washington rétablit les sanctions contre l'Iran. Les pays européens se disent prêts à travailler sur un accord plus large. Muriel Pénicaud convoquée chez le juge d'instruction le 22 mai. Dans deux semaines, la ministre du Travail sera entendue comme témoin assisté sur des soupçons de favoritisme chez Business France, une agence dont elle a été la directrice générale. Elle est suspectée de ne pas avoir fait d'appel d'offres pour l'organisation d'une soirée lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas en janvier 2016. Huitième acte de la grève en pointillé contre la réforme du rail. Pour la journée de demain, la direction prévoit 50% des TGV TER transiliens en circulation, un tiers des intercités. Fin de cet épisode jeudi matin. Le pire est arrivé, commentaire de France Terre d'Asile après la mort de deux migrants en moins de 48 heures en région parisienne. Le corps du premier a été retrouvé dans le canal Saint-Denis à Aubervilliers. Le second est mort noyé en tentant de traverser à la nage le canal Saint-Martin la nuit dernière. L'association affirme alerter depuis deux mois les autorités sur les dangers liés à l'installation des migrants au bord du canal. Les paillettes, les stars et le tapis rouge, c'est parti pour la 71e édition du Festival de Cannes. À l'issue de la cérémonie d'ouverture menée par Edouard Baird, place à la projection du premier film en compétition, Everybody Knows, du réalisateur iranien Asghar Farhadi, avec Javier Bardem et Penélope Cruz.
France Info. Édition spéciale. Jean-François Aquili.
Que va-t-il se passer? Que peut faire la France? Je vous propose de réentendre l'intervention, ou du moins un extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron. C'était il y a une quinzaine de jours devant le Congrès américain.
As for Iran,
pour ce qui touche l'Iran,
our objective is clear.
Notre objectif est clair.
Iran,
l'Iran
shall never possess any nuclear weapons.
Se rendra pas propriétaire de quelque arme nucléaire que ce soit.
Not now,
ni
not
maintenant,
in 5 years,
ni dans 5 ans,
years,
ni dans 10 ans, jamais.
Il a semblé épouser finalement la position de Donald Trump, Sébastien Chenu, le président français.
Non mais, j'entends ça, évidemment, le fait que l'Iran détienne l'arme nucléaire est quelque chose sur lequel il faut lutter. Évidemment, personne ne souhaite que l'Iran dispose de l'arme nucléaire. J'entends aussi quelque chose d'autre qui peut me choquer. Je peux comprendre Israël sur un certain nombre de points. Les menaces qui pèsent sur Israël, etc. Je peux le comprendre. En revanche, la position de Donald Trump vis-à-vis des autres pays qu'il menace quasiment en disant on va les frapper de sanctions est absolument inadmissible. Absolument inadmissible. Et pendant votre pause, François Colcombet disait l'Iran est partout en référence à un film présenté au Festival de Cannes. Il y a des hasards d'actualité qui n'en sont peut-être pas finalement. Eh bien oui, l'Iran est partout. Donc qu'est-ce que c'est que cette façon de dire aux autres vous n'avez pas à commercer, vous n'avez pas à entretenir de relations avec l'Iran. C'est assez inadmissible de la part de Donald Trump.
François Colcombet,
ce que je disais à propos du Festival de Cannes, c'était surtout que le réalisateur avait été interdit de venir en France. C'est une façon de dire ce qu'est ce pays que l'Iran. Est-ce qu'on peut faire confiance à un pays qui viole les droits de l'homme de façon délibérée, à la connaissance du monde entier? C'est le pays dans lequel la peine de mort à proportion de la population est le plus appliquée, dans lequel on applique des tortures selon qu'elles sont prévues par la charia, etc. Ce pays à qui on veut donner de la bombe atomique, c'est
cela. Si on fait le catalogue des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, on fait plus de politique.
Mais qui n'ont pas la bombe atomique. Qui n'ont pas la bombe atomique. L'Arabie Saoudite n'a pas la bombe atomique.
À ce moment-là, on ne parle plus avec la Chine.
En Israël, dont vous parliez tout à l'heure, on ne pratique pas la torture.
Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, Bob Vallier, est-ce que nous ne payons pas aujourd'hui, finalement, une certaine forme de frilosité de la part de M. Barack Obama, de l'administration précédente, à gérer de façon plus en avant les problèmes du Proche-Orient?
Obama et John Kerry aussi ont fait beaucoup pour avoir cet accord d'abord.
Donc, oui, l'accord qui est décrié aujourd'hui.
Oui, ce que M. Netanyahu a dit il y a quelques jours avec son PowerPoint était la raison principale pour laquelle l'administration Obama a entretenu cet effort dans la première place. Donc, Obama et la France aussi, je crois, sont d'accord que peut-être l'accord iranien n'était pas suffisamment fort. Le problème avec le renoncé de Trump en ce moment est qu'il n'y a pas une suite. Il n'y a pas quelque chose à remplacer ce que était vidé aujourd'hui. Donc Macron devant le Congrès.
Vous voulez dire quoi, nous sommes dans le vide aujourd'hui?
Comment?
Nous sommes dans le vide aujourd'hui. Il n'y a pas d'accord de rechange.
Il n'a pas proposé quelque chose pour remplacer ce qu'il a éliminé. Là. Donc
François
Macron, devant le Congrès, a proposé quelques pilonniers d'un accord post-accord, mais Trump n'a pas ça et on n'a pas une idée de la suite en ce moment.
Il a dit très clairement qu'il fallait faire comme il a essayé de faire en Corée. Bon, on peut dire que ce n'est pas tout à fait comparable. Ceci dit, il a insisté sur un point. Il a dit... J'ai pratiquement l'accord de la Chine pour discuter, etc., et de la région. Ça veut dire quoi, à la fin d'un discours comme celui-ci? Ça veut dire, vous, les Européens, écoutez-le de cette façon. Je reviens en arrière. La France, que ce soit Hollande et que ce soit Macron, sur ce dossier, sont irréprochables. Ils sont même courageux, à mon avis.
Merci, inefficace.
Pas du tout.
Ben si.
Pas du tout. Pas du tout. Parce que si Fabius n'avait pas exigé plus de conditions, ça serait encore pire. Et maintenant, vous allez voir qui est-ce qui va mener la discussion. En Europe, qu'est-ce qui est capable de mener la discussion du côté européen?
Ça n'a pas marché avec Emmanuel Macron, en tous les cas.
Macron est quand même mieux positionné que Mme Merkel pour l'instant.
On verra bien avec la
Je rajoute que la France, elle n'a pas de leçon à recevoir sur ce chapitre. La France, elle a bombardé des sites iraniens récemment, etc. Elle fait preuve de fermeté.
Mais ce n'ont pas fait la Grande-Bretagne.
Ce que n'ont pas fait les autres pays européens.
Laisse tomber, c'est pas. Gilles Bernstein.
Sur le fait que l'Iran se retire complètement ou pas, nous avons eu l'Élysée tout à l'heure au téléphone et qui nous a dit, après le coup de fil entre Trump et Macron et ce qu'ils ont entendu du discours de Macron, qu'ils auraient l'accord du président Trump. Certes, il est sorti de l'accord, mais il ne se retire pas de négociations globales et que l'accord dont ils ont parlé à Washington et dont s'est prévalu le président Macron, eh bien, effectivement, Trump est d'accord pour essayer de le négocier. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà les éléments de langage de l'Élysée.
Oui, ce soir. Absolument.
Il y a le problème de l'Iran.
Allez.
fois. Un mot, l'Iran est dans un état tel que sa marge de manœuvre n'est pas très très grande. L'Iran est divisé entre des courants très forts, il y a des émeutes actuellement qui ne sont pas des émeutes de bobos, qui sont des émeutes populaires.
Oui. Ouais. La position de Trump renforce cette tension.
Merci messieurs, 21h28 sur France Info, suite de notre édition spéciale après la météo et le journal. On se retrouve dans un instant dans ce Tout est politique un peu particulier ce soir sur France Info.
Allô ?
Bonjour, j'appelle pour l'annonce occasion exceptionnelle BMW.
Ah, vous êtes intéressé ?
Peut-être. Vous avez fait les 101 points de contrôle mécanique et les 53 points de contrôle esthétique, comme chez BMW ?
Bah, je l'ai juste photographié.
D'accord. Et vous offrez la garantie, l'assistance kilométrage illimitée pendant 24 mois.
Oula, c'est beaucoup ça.
Et vos conditions de financement ?
Ah, c'est paiement comptant.
Bon, merci. Mais pour une occasion exceptionnelle BMW, je vais aller chez BMW.
BMW Premium Selection. Les voitures d'occasion certifiées BMW, c'est uniquement chez BMW.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 260 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
La météo, le rappel avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Demain, la moitié nord sera concernée par deux perturbations apportant essentiellement des nuages. La première va s'étendre des Hauts-de-France au Poitou et au Berry, maintenant un ciel variable en matinée, mais les éclaircies vont s'élargir l'après-midi. La deuxième va progressivement envahir la Bretagne, donnant un ciel de plus en plus chargé. Sur le reste de la moitié nord, la journée se passera sous le soleil, avec tout de même un risque de petite averse sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Sur le sud, les nuages seront plus nombreux, apportant même quelques averses dès la matinée. Le pourtour méditerranéen garde en plus de soleil. Le ciel va se dégager du Limousin au Land, mais les averses risquent de tourner à l'orage sur le quart sud-est, ces orages pouvant ponctuellement déborder vers le littoral. Côté température, les maximales afficheront 20 à 27 degrés en général, avec plus de fraîcheur près de la Manche, de l'Atlantique et au sud de la Garonne.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 21h30, toute l'info avec vous François Lepage.
Avec un détour par le Stade de France, la finale de la Coupe de France, en ce moment le petit poussé des Herbiers contre le géant PSG, on joue depuis une vingtaine de minutes, Jacques Vendroux, où en est-on ?
18 minutes pour être très précis, est-ce que vous connaissez Mathieu Pichot ? Eh bien c'est le gardien de but de cette équipe Vendée, les Herbiers Football, jusqu'à maintenant il a été héroïque, il a la chance... Quand ce n'est pas ses interventions, eh bien c'est les poteaux, la transversale qu'il sauve. En tous les cas, la défense des Herbiers est jusqu'à maintenant eh bien, irréprochable. Et malgré la présence de Di Maria, Cavani et Mbappé devant, eh bien, actuellement, le Paris Saint-Germain eh bien, est tenu en échec par cette équipe des Herbiers à l'occasion de cette 101e finale de la Coupe de France de football dans un stade de France plein à craquer. En tous les cas, c'est agréable, on ne s'ennuie pas et c'est un bon match entre ces deux formations, la Ligue 1 contre le National, 0-0, 20 minutes de jeu maintenant.
Merci Jacques Vendroux, à tout à l'heure et bravo donc à Mathieu Pichot. Donald Trump a tranché, les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien et vont rétablir les sanctions américaines contre Téhéran. Le président américain s'est exprimé depuis la Maison-Blanche un peu après 20h. Selon lui, cet accord qu'il qualifie de désastreux n'aurait jamais dû être signé et d'accuser le régime iranien d'être le principal parrain du terrorisme. Téhéran a immédiatement réagi ce soir et parle de décisions illégales et illégitimes. Le président Rouhani se dit même prêt à reprendre immédiatement les activités nucléaires. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni disent regretter cette décision. Emmanuel Macron évoque sa volonté de travailler collectivement à un accord plus large. À l'inverse, Israël se félicite et parle d'une décision courageuse. Un trafic encore difficile demain sur les rails pour le 16e jour de grève séquencée. La direction annonce 50% des TGV, TER et Transilien et un intercité sur trois. Les syndicats qui doivent se retrouver demain pour organiser cette fois une journée de mobilisation maximale, sans doute la semaine prochaine. Une pause dans la grève chez Air France. Aucun nouveau préavis n'a été déposé pour le moment. Quatre jours après le choc de la démission du PSG, les syndicats demandent la reprise des négociations sur les salaires. La direction, elle, estime que les conditions ne sont pas réunies. La nouvelle séquence de grève dans l'entreprise s'achève ce soir. 20% des vols en moyenne étaient annulé aujourd'hui. Le Festival de Cannes, 71e édition, c'est parti. Ouvert officiellement ce soir par Martin Scorsese et Kate Blanchett, présidente du jury. C'est le premier rendez-vous cannois depuis le séisme Weinstein, avec un jury très engagé pour la cause des femmes. 21 films sont en lice pour la Palme d'Or. Et ce soir, c'est le film Everybody Knows qui est projeté en ouverture, film de l'Iranien Asghar Farhadi, avec en vedette Penelope Cruz et Javier Bardem. 21h33 sur France Info, la suite de l'édition spéciale Jean-François Akili.
France Info, édition spéciale Jean-François Akili.
La deuxième partie de Tout est politique sur France Info, édition spéciale, la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord nucléaire iranien, avec nos invités Jean-Baptiste Djebari, député La République En Marche de Haute-Vienne, vice-président du groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée nationale, avec Danielle Simonet, oratrice de la France Insoumise, coordinatrice du Parti de Gauche et conseillère de Paris.
Bonsoir. Ah,
bonsoir à vous et bienvenue. Avec vous également Thierry Coville, vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste de l'Iran, vous tombez bien. Et avec nous également, rebonsoir, on vous retrouve Isabelle Labéry, la chef du service étranger de France Info. Et nous retrouverons tout à l'heure en direct Grégory Phillips, notre correspondant à Washington. Il a donc promis, et il l'a fait, Donald Trump se retire de cet accord nucléaire iranien. Je vous propose, pour relancer le débat, de réentendre un extrait de cette intervention de Donald Trump depuis Washington.
Donc, l'accord iranien est fondamentalement vicié. Donc, si nous faisons rien, nous savons exactement ce qui se passera. En très peu de temps, le principal parrain du terrorisme sera sur le point d'acquérir l'arme la plus dangereuse au monde. Par conséquent, j'annonce ce soir que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien.
Thierry Coville, question toute simple. Est-ce qu'il y a un réel danger aujourd'hui avec l'Iran, un Iran qui se doterait d'une arme nucléaire et qui ferait la guerre à tous ses voisins?
Donald Trump fait tout pour, hein, parce que c'est ce que les Européens lui ont dit, c'est que s'il se retire de l'accord, que l'Iran respecte. Là, effectivement, il y a plusieurs options. C'est que l'Iran peut très bien dire, c'est ça qui va se jouer dans la prochaine semaine, les États-Unis se retirent, ils mettent en place des sanctions, j'ai pas les bénéfices économiques que j'attendais de cet accord, donc c'est ce qu'a menacé, enfin c'est pas une menace, c'est logique, ils peuvent recommencer à enrichir l'uranium à 20%, et il y a même un dirigeant iranien qui a dit, si c'est nécessaire, on peut également sortir le traité de non-prolifération.
Et cet accord, le précédent du moins, celui qui est donc rompu aujourd'hui, suffisait à maintenir une forme d'équilibre régional?
Non, mais l'accord, il est, je veux dire, contrairement à ce que dit Trump, l'accord, il concerne le programme nucléaire iranien.
Il était efficace?
C'est pas moi qui le dis. Il était efficace, ça marchait, tout le monde le dit, ça a été certifié 10 fois. 10 fois par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc l'Iran le respecte à la lettre. Donc c'est pour ça que les Iraniens s'estiment en position forte, si vous, quelque part, c'est que légalement, ils ne sont pas les premiers à sortir de cet accord.
Jusqu'en 2025, parce qu'après
Isabelle
2025,
Labéry, Isabelle Labéry.
Après 2025, on avait beaucoup moins de certitudes, et c'est ce que dit Donald Trump, c'est que on n'a aucune garantie sur le nombre de centrales, sur la capacité d'enrichissement après cette date. C'est l'un de ses arguments.
La meilleure façon de préparer 2025, c'est peut-être pas de rompre l'accord de 2015.
Pour vous, c'est un peu va-t-en-guerre tout ça, c'est ce que vous dites. Daniel Simonet.
Oui, Donald Trump est d'abord dans une logique de mensonge, exactement comme le faisait Bush à l'époque, hein, sur l'Irak. Il reprend les mensonges de Netanyahou. Oui. Voilà, il reprend les mensonges de Netanyahou alors que l'accord est respecté. Et par contre, il donne la possibilité, non seulement, c'est là où c'est totalement irresponsable, à ceux qui en Iran voudraient justement la rupture de cet accord parce qu'ils voudraient enrichir l'uranium et développer l'arme atomique, il leur donne ce boulevard-là. Il est dans une logique va-t-en-guerre, irresponsable, extrêmement inquiétante au niveau de la région. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité de la France, hein, qui est justement de refuser de se soumettre à cette stratégie de Trump. Or, ce que je remarque, moi, dans la position du président Macron et qui m'inquiète, c'est qu'il dit vouloir travailler un accord plus large incluant les exigences, finalement, de Donald Trump. Et ça veut dire, finalement, de rester sur une position alignée qu'il avait déjà aux États-Unis, lorsqu'il est allé aux États-Unis derrière Donald Trump, alors que la France, elle aurait dû se poser en intermédiaire, en défense du droit international, respecter complètement l'accord et du coup proposer à la l'annonce de Donald Trump, plutôt eh bien, une conférence ad hoc avec l'ensemble des grands acteurs de la région. Parce que la logique va-t-en-guerre est extrêmement préoccupante.
La position du président Macron inquiète Daniel Simonet, Jean-Baptiste Djebari. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Non, mais pour dire que Donald Trump lui-même, depuis qu'il a été élu, a validé par deux fois, a certifié par deux fois l'accord, puisqu'il doit le certifier devant le Congrès américain, Congrès qui lui a demandé de faire cette preuve-là. L'accord, il permettait à l'Iran de rester un état du seuil nucléaire. Et le danger, c'est effectivement que demain, pendant quelques années, ils se remettent à produire de l'uranium enrichi, qu'ils se dotent de l'arme nucléaire, avec une doctrine d'emploi qui est peu claire. Je rappelle qu'en 2011, Ahmadinejad disait qu'il allait rayer Israël de la carte avec l'arme nucléaire.
Il n'a pas dit ça, mais bon.
Bon, en tout cas, c'était...
Mais si vous voulez, on peut répéter. Si vous voulez, ça, vous rentrez un peu... c'est pas une critique qu'on veut. Ouais. Mais si vous voulez, on a entendu ça, justement, la période Bush, c'est qu'on commence par diaboliser l'Iran, on commence à dire qu'il veut...
Mais qu'est-ce qu'il a dit?
Puis ensuite, il a repris une phrase roumaine. Je dis pas que c'est bien que le régime sioniste disparaîtra au cours du temps. Mais il a jamais fait une conférence de presse, je vous l'accorde, pour dire qu'il n'avait pas dit ça. Mais c'est faux, voilà, il n'a pas dit ça.
Oui, continuez, Jean-Baptiste.
Ce que je voulais dire, c'est que néanmoins, effectivement, la précision utile, et je vous remercie, le risque, effectivement, d'avoir un État qui devient nucléaire, c'est qu'en chaîne, les pays voisins, et on pense notamment à l'Arabie saoudite, à la Turquie, vont vouloir se doter de l'arme nucléaire. Et la déstabilisation de la zone sera, à ce moment-là, majeure. Et d'ailleurs, j'observe que Trump n'a pas dit que l'Iran ne respectait pas le traité, ou l'accord. Il ne respectait pas l'esprit du traité.
Il a dit qu'il cherchait l'arme nucléaire.
Précisément, il y a quelques jours, il a dit qu'il ne respectait pas l'esprit et que l'Iran avait un rôle déstabilisateur.
Mais écoutez, sa déclaration d'aujourd'hui, il s'agit complètement sur ce qu'a pu dire M. Netanyahou et qui a été contredit par les faits depuis des années.
Je vous propose de marquer une pause. On change de climat, d'ambiance, si je puis dire. Nous retournons au Stade de France avec vous, Jacques Vendroux. Aïe, aïe, aïe. Un but marqué par le Paris Saint-Germain face aux Herbiers, ça ?
Exactement. Après 26 minutes de jeu dans cette première mi-temps, eh bien, le Paris Saint-Germain, par son milieu de terrain, Lo Celso, vient d'ouvrir le score. Et le Paris Saint-Germain, eh bien, mène très honnêtement, logiquement, devant cette équipe du Vendée, les Herbiers Football, club de national, car le PSG domine, n'arrivait pas à marquer, ni à l'instant. Lo Celso vient d'ouvrir le score.
Oui, il résiste courageusement, ces Vendéens, hein, Jacques. Hein, c'est ce que vous
exactement,
dites. Hein.
Exactement. C'est un bon match.
On vous retrouve agréable. Tout à l'heure. Merci, Jacques. 21h40 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Marie Rouarche.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est profondément préoccupé du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Il appelle les 6 autres signataires à respecter pleinement leurs engagements. Même appel lancé par Paris, Londres et Berlin. Barack Obama dénonce une grave erreur de son successeur à la Maison-Blanche. Sans surprise, Dimitri Medvedev retrouve le poste qu'il occupe depuis 2012 en Russie, celui de Premier ministre. Les députés de la Douma ont largement plébiscité sa candidature. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a proposé la reconduction de son fidèle allié immédiatement après sa prestation de serment pour un 4e mandat présidentiel hier. 16e jour de grève à la SNCF demain contre la réforme ferroviaire. Le trafic reste très perturbé. La direction annonce la moitié des TGV, TER et Transilien en circulation, un intercité sur 3. Pas de sortie de crise en vue à Air France. L'intersyndicale appelle la direction à revenir à la table des négociations sur la hausse des salaires. Demande rejetée dans la foulée par les dirigeants de la compagnie. La période qui s'ouvre ne permet pas d'engager une quelconque négociation, répondent-ils. Les 10 syndicats de la compagnie n'ont pour l'instant déposé aucun préavis de grève supplémentaire. De Starmania sur un prélude de Bach, sa voix nous a bercé pendant plus de 30 ans. Morane est morte. La chanteuse belge a été découverte inanimée hier soir chez elle à Bruxelles. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur la grande place de la capitale belge pour lui rendre hommage ce soir.
France Info.
France Info. Édition spéciale, Jean-François Aquili.
Et nous vous retrouvons, Grégory Phillips, vous êtes notre correspondant en direct de Washington. Rebonsoir Grégory.
Jean-François.
Oui, si l'on sonde un petit peu le discours, les propos tenus par Donald Trump, il s'en prend durement donc au régime iranien, mais il a eu quand même quelques mots en direction du peuple iranien.
Oui, et ça aussi, il l'avait déjà fait en s'adressant directement au peuple iranien qui aspire à la liberté. Il y a un message pour dire on va vous aider dans cette démarche-là pour faire un distinguo entre le peuple et le régime des ayatollahs. Puis à la fin de son discours, il y a aussi un message aux Européens qui est assez contradictoire parce que, comment dire ça, Trump fait en quelque sorte un bras d'honneur aux dirigeants européens qui se sont succédés ici à Washington depuis des semaines. Emmanuel Macron, Angela Merkel, hier encore le ministre britannique des Affaires étrangères en déchirant cet accord malgré la pression de ses alliés européens, mais à la fin il leur dit mais ensemble on peut travailler peut-être à un nouvel accord plus large, plus inclusif, qui comprendrait mieux les inquiétudes notamment d'Israël et des États-Unis. Donc il y a une main tendue à la fin qui est assez paradoxale quand on compare ça à la tenue du discours de tout à l'heure.
Alors justement, je voudrais que nous écoutions ce court extrait de Donald Trump à propos de ce supposé nouvel accord. Écoutez.
Mais le fait est qu'ils vont vouloir renégocier cela. Et il faut que cela bénéficie au peuple iranien. Dans ce cas-là, je serai prêt et capable de signer un accord. Des choses formidables pourraient arriver à l'Iran et pour la paix et pour la stabilité que nous voulons tous au Moyen-Orient.
Voilà, encore un mot avec vous, Grégory et Philips. Qu'est-ce qui filtre ce soir au fond sur ce supposé nouvel accord?
Écoutez, il va falloir voir comment l'administration Trump envisage de le mettre en place, mais il y a quand même peu de chances que du côté iranien, on accepte de rediscuter avec les Américains qui viennent de claquer la porte d'un accord qui a été signé et globalement respecté par Téhéran depuis 2015, si on en croit toutes les conclusions des rapports de l'AIEA. Donc on va voir comment ça va se passer. On note à l'instant, il y a vraiment quelques minutes, une réaction de l'ancien président américain Barack Obama qui parle de grave erreur ce soir. Vous savez que c'est assez rare que Obama prenne position dans la politique américaine. Il y a une tradition ici qui veut que les ex-présidents ne se mêlent pas de ce que font leurs successeurs. Mais là, Obama dit c'est une grave erreur, une décision un peu égarée. C'est le terme qui est utilisé par l'ancien président Barack Obama qui était à l'origine de la signature de cet accord en 2015.
Oui, c'est pas comme chez nous avec notre président François Hollande. Merci à vous, Grégory Philips, en direct de Washington. Merci pour cette intervention précieuse ce soir donc sur ces contenus de l'annonce de Donald Trump. Isabelle Labéry, qu'est-ce que l'on peut dire à ce moment-là, aujourd'hui, maintenant, ce soir, sur ce possible nouvel accord? Vous avez peut-être des pistes de réflexion là-dessus?
Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vrai qu'il y a un vrai revers diplomatique pour les Européens. Mais je pense qu'il faut s'intéresser aussi aux questions économiques qui vont se poser très, très vite. Donald Trump a déjà fait beaucoup de mal à l'économie iranienne, puisque des sanctions ont été maintenues. Tous les investissements directs étrangers qui étaient promis, Rouhani en attendait 50 milliards, il y en a à peine 3 ou 4 qui ont été débloqués. Aujourd'hui, il y a une vraie question sur les entreprises européennes qui vont faire commerce avec l'Iran. Aujourd'hui, ce soir, l'ambassadeur américain à Berlin a déjà suggéré, demandé aux entreprises allemandes de cesser toutes leurs activités en Iran. Parce que c'est un effet collatéral des sanctions américaines, c'est que toute entreprise étrangère qui fait commerce avec l'Iran pourrait à son tour faire l'objet de sanctions. Souvenez-vous, les lois d'Amato Kennedy en 96 et les grandes banques européennes qui ont été frappées de fortes amendes. On revient sur ce scénario-là aujourd'hui. Vous avez Total qui vient d'investir sur un énorme projet gazier qui est l'un des plus gros au monde. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Français, est-ce que les Allemands, est-ce que les Italiens vont devoir arrêter tous les contrats qui sont en cours, tous les investissements qui sont en cours en Iran? Ce serait dommageable pour l'économie européenne et évidemment pour l'économie iranienne.
Oui, Daniel Simonet veut intervenir
sur
ce sujet.
C'est pour ça que je pense que la France, elle doit absolument refuser de céder à ce chantage de Trump et doit au contraire refuser ces sanctions-là et donc contourner les sanctions et appuyer les entreprises dans ses relations avec l'Iran. Parce que le rôle-là de la France est justement de refuser cet alignement atlantiste qui va être dans une logique va-t-en-guerre et au contraire soutenir, refuser la rupture de ces accords de 2015, c'est donc refuser les sanctions et donc soutenir économiquement les partenariats qui peuvent s'envisager.
Thierry Coville, sur cet aspect des choses très économiques, au fond, est-ce que l'Iran est poussé dans une sorte de corner, isolé du coup?
Alors, juste très rapidement, je dirais, oui. Le premier point, c'est que je pense qu'il est complètement irréaliste, impossible de penser qu'on va renégocier l'accord de 2015. Enfin, c'est, ça tient pas la route.
Vous dites ça ce soir, vous.
Ah non, mais c'est pas que je le dis. Oui. On a fait un petit travail.
Je pense que Trump ne pense pas.
On a fait un petit travail avec
réussir,
trois instituts, un institut allemand, un institut anglais. Je connais pas un diplomate européen qui va vous dire qu'on peut renégocier. Ça tient pas la route. Enfin, c'est une négociation tellement compliquée, dure, c'est un compromis. Arriver comme ça, avec des gros sabots, en disant « Ouais, c'est nul, je vais renégocier », ça tient.
Il y avait eu 21 mois de discussion très...
Il n'y a pas eu plus, ça date depuis 2002, les tensions avec l'Iran. Donc vous imaginez, c'est un compromis. Au début, les Occidentaux voulaient pas que l'Iran ait le droit à l'enrichissement. Finalement, ça a été accepté pour permettre d'avoir un accord. Donc c'est facile à dire après, c'est un mauvais accord. Je pense que ça tient pas la route. Le deuxième point, c'est que si les Européens défendent cet accord, c'est pas pour des raisons économiques. Les exportations vers l'Iran, c'est 0,5% de nos exportations. C'est parce qu'ils ont bien compris que si, en sortant de l'accord, effectivement, les Iraniens peuvent dire légitimement, écoutez, si c'est comme ça, on revient à la situation avant l'accord, où ils enrichissaient l'uranium à 20%, et pourquoi pas se diriger vers la bombe atomique. Et donc, tout va se jouer sur les questions économiques. Je veux dire, le président Rouhani a dit, dans son discours d'hier, il a dit, ok, les États-Unis sortent de l'accord, de toute façon, ils nous embêtaient tout le temps, ça pose pas de problème. Si ça change rien économiquement, donc c'est ça la question, on va rester dans l'accord avec les Européens, les Chinois et les Russes. S'il y a des sanctions économiques, et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve ça irresponsable, enfin c'est dangereux ce qu'a dit l'ambassadeur américain en Allemagne, s'il y a des sanctions économiques qu'on voit qu'on est en perdant et qu'on n'a eu aucune raison à cet accord, là il y a un risque qui sort de l'accord.
C'est que l'enjeu économique il est au service de la paix. Pour pouvoir maintenir la paix, eh bien il faut absolument refuser ces sanctions économiques des États-Unis. Donc là, la question qui est posée aux signataires européens et à la France, c'est bien de respecter l'accord de 2015 au service de la paix.
Jean-Baptiste Djebbari sur ces questions.
Et le développement de l'économie permettait de libérer le peuple et l'ensemble de la société iranienne, mais c'est anecdotique, mais le ministre des Affaires étrangères Jawad Zarif est venu il y a quelque temps en Allemagne, à Munich, et les sociétés pétrolières ont refusé de ravitailler l'avion au regard des risques des lois extraterritoriales, enfin de toutes les sanctions que pourraient imposer les États-Unis. C'est finalement l'armée allemande qui a ravitaillé l'avion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il faut une volonté étatique, mais évidemment, ce sera compliqué au regard de, il faut être réel, des forces réelles, diplomatiques, qui vont être à l'œuvre, et notamment
Mais non, je suis pas d'accord avec vous. Le président de la République française, il a un rôle à jouer.
Oui,
et son rôle, c'est pas de se coucher derrière les États-Unis et d'accepter.
C'est la question de regarder la situation telle qu'elle est.
Quand il dit vouloir travailler un cadre plus large, incluant les exigences.
Thierry Coville, vous diriez.
Il est dans un alignement atlantiste.
Vous diriez que le président français se couche.
Non, pas du tout. Non, mais je pense qu'il a. Je pense que j'ai bien écouté son discours au Congrès. Je pense que la position. Et c'est pas que la position de Emmanuel Macron, c'est la position européenne. On respecte l'accord 2015 et on s'appuie sur l'accord 2015. Donc il faut le défendre pour bâtir d'autres accords. Donc je pense que ça, c'est la position européenne, mais ça, c'est un dossier clé pour la diplomatie européenne.
Absolument.
Hein. Si on commence à partir en disant « Ouais, il faut accepter les rapports de force », si jamais l'Europe cède sur ce dossier, je vois pas où sera la crédibilité de la politique européenne à l'avenir. Enfin, en tant que je suis pas partisan, mais...
Allez, 21h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Marie Rouarche.
L'Iran n'entend pas se retirer de l'accord de Vienne dans la foulée de la décision américaine de dénoncer ce texte sur le nucléaire iranien. Téhéran se dit prêt à engager des discussions avec les autres partenaires de l'accord. Et en fonction du résultat de ces échanges, le président iranien prévient que Téhéran pourrait relancer l'enrichissement industriel sans limite. Les pays européens se disent aujourd'hui préoccupés par l'annonce de Washington. Nouvelle journée de perturbations sur les rails. Demain, au 16e jour de mobilisation des cheminots contre la réforme ferroviaire, un peu moins de TGV en circulation qu'aujourd'hui, 1 sur 2 maintenu demain, un TER et un Transilien sur 2 également, un intercité sur 3. Le SAMU est-il en faute après la mort d'une jeune femme de 22 ans en décembre dernier à Strasbourg? La famille de la victime demande des explications après avoir pris connaissance de l'enregistrement de son appel au secours. L'opératrice la renvoie assez brutalement vers SOS Médecins. La jeune femme est morte quelques heures plus tard en réanimation. Les hôpitaux de Strasbourg ont ouvert une enquête administrative. La République démocratique du Congo fait face une nouvelle fois à une épidémie du virus Ebola. Il a déjà tué 17 personnes sur 21 cas signalés dans la province de l'Équateur, au nord-ouest du pays. Le ministère de la Santé évoque une urgence de santé publique de portée internationale. Encore un résultat pas très encourageant sur terre battue pour les tennismen français. À 2 semaines du début de Roland-Garros, Richard Gasquet s'incline au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, battu par le 95e joueur mondial. Élimination aussi de Benoît Paire.
France Info.
France Info, édition spéciale, Jean-François Aquili.
On ne s'en lasse pas, ultime petit détour par le Stade de France, Xavier Monferrand, toujours 1-0, il résiste ces Vendéens.
Oui, il résiste effectivement. Que 1-0 pour le Paris Saint-Germain après 40 minutes de jeu. On est à 5 minutes de la mi-temps. Et c'est Giovanni Lo Celso qui a trouvé la faille dans cette défense très regroupée des Herbiers. 1-0 après sa troisième tentative. Il a touché deux fois le poteau, l'Argentin. Et à la 26e minute, il l'a mise au fond. Ça fait 1-0 pour le PSG qui, vous l'aurez compris, aurait pu mener de plus que ça. Mais en tout cas, car après 40 minutes de jeu, eh bien, Paris ne mène que 1-0 face aux Herbiers.
Voilà, allez, à suivre ce match étonnant ce soir. Isabelle Laveri, ce soir, Benjamin Netanyahou pour Israël, hein, soutient totalement la décision courageuse, dit-il, de Donald Trump. C'est une réaction attendue.
Oui, alors on ne sait plus très bien qui s'aligne sur qui, finalement, entre les États-Unis et Israël. Vous vous souvenez de cette grande mise en scène, aussi ridicule que spectaculaire, de Benjamin Netanyahou dévoilant derrière un drap noir des montagnes de classeurs et de DVD pour dire nous avons les preuves que l'Iran a continué à développer son programme nucléaire. C'était une démonstration qui était faite pour préparer finalement cette annonce de Donald Trump du retrait de l'accord. Donc oui, là finalement les deux pays sont sur des vues pleinement convergentes et rappelez-vous, lundi dans quelques jours, on va inaugurer la nouvelle ambassade américaine qui va passer de Tel Aviv à Jérusalem. Oui, c'est un dossier important qui va pouvoir montrer à quel point les États-Unis et Israël sont sur la même longueur d'onde en ce moment.
Jean-Baptiste Djebari, vous qui êtes vice-président du groupe d'amitié France-Iran, est-ce que l'Iran, au fond, aujourd'hui, comme on le dit, est une menace réelle, permanente pour Israël ?
L'Iran, c'est un pays qui est en conflit, évidemment, avec Israël par l'intermédiaire de ce qu'on connaît, le Hezbollah libanais, qui est en conflit avec d'autres pays, d'ailleurs, avec le Bahreïn, avec l'Arabie saoudite, puisqu'elle est accusée d'agiter une minorité chiite dans l'est de l'Arabie saoudite. C'est un pays qui est en conflit avec de multiples autres pays dans la zone. Et moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est un test pour l'Europe puissance, pour la diplomatie européenne. Et je pense que c'est dans ces moments-là, dans les moments de péril, parce que je crois qu'on vit un moment de péril au niveau de la zone et plus largement au niveau mondial, qu'on doit faire preuve de volontarisme politique le plus affirmé et qu'Emmanuel Macron peut tout à fait exercer ce leadership.
Parce que la diplomatie européenne est quand même une sorte de serpent de mer, Thierry Coville. Vous êtes d'accord avec ça, vous?
Oui et non, mais sur le dossier nucléaire iranien, sur l'Iran, c'est un peu historique, mais si vous voulez, le dossier iranien s'est construit en même temps qu'il y avait une évolution des institutions européennes. Javier Solana, par exemple, a un rôle très important dans les négociations, donc c'est un dossier où l'Europe a joué un rôle positif.
Concernant ce dossier-là. Sur Israël, que dites-vous, Thierry Coville? Est-ce qu'au fond, Israël n'implique pas une forme de principe de réalité? Regardez le Hezbollah qui vient de remporter les législatives dans le pays voisin, au Liban.
Oui, mais les gens ont voté pour eux. Je rappelle quand même que. Non, mais je veux dire, excusez-moi.
C'est une démocratie.
Qu'est-ce
que vous dites?
C'est toujours pas facile, mais je veux dire, voilà, on les a pas forcés à voter pour Hezbollah. Donc il y a peut-être d'autres facteurs qui expliquent que le Hezbollah a une certaine légitimité au Liban. Moi, je suis pas spécialiste, mais c'est un peu facile de. Ce que je veux dire par là, c'est que. Le rôle de l'Iran dans la région, on est quand même dans la diabolisation totale. Je suis pas là pour défendre l'Iran, loin de là, mais en Irak, si vous voulez, pourquoi c'est important d'avoir, par exemple, un gouvernement chiite en Irak? Ils ont quand même une guerre de 8 ans avec Saddam Hussein, qui les a attaqués, donc c'est très important pour eux. Alors, je dis pas qu'ils ont pas d'influence en Irak, si vous voulez. C'est tellement caricatural la position des Américains. Oui, les milices chiites en Irak. Je rappelle quand même, je pense que ça intéresse les Français, que ces fameuses milices chiites en Irak se sont quand même battues avec des pasdarans iraniens contre l'État islamique qui a menacé de déstabiliser l'Irak. Donc on est loin, si vous voulez, d'un Iran méchant qui déstabilise toute la région. Bahreïn, j'ai pas le temps d'en parler, mais je rappelle quand même, en 2011, c'est la population de Bahreïn qui s'est soulevée contre une dictature et l'Iran n'avait rien à voir dans cette question.
Jean-Baptiste Djebari.
Je veux dire par là que sur Israël et l'Iran, le conflit armée est déjà à l'œuvre, puisque Israël est allé bombarder en Syrie des installations iraniennes. Donc de toute façon, ce conflit-là, il est larvé, et le rôle des Russes est intéressant à observer, en tout cas, il peut être absolument clé dans ces conflits-là, puisque les Russes, aujourd'hui, laissent venir les Israéliens bombarder des installations russes en Syrie, alors même qu'ils sont alliés du pouvoir de Bachar al-Assad. Donc cette zone est réellement une poudrière assez inquiétante.
Alors justement, c'est l'ultime question. Il nous reste peu de temps. Il faut conclure. Isabelle Laberry, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter pour cette région du Proche-Orient après cette décision spectaculaire de Donald Trump?
Bien sûr que oui, mais il faut encore attendre quelques jours, quelques semaines. On ne peut pas répondre à cette question là, dans les minutes qui suivent seulement l'annonce de Donald Trump.
Bien sûr, Thierry Coville, là-dessus, est-ce que au fond, c'est une poudrière, le Proche-Orient, depuis
toujours.
Non, mais
si vous voulez, on a toujours du mal. Il y a des tensions, mais si vous voulez, il faut quelquefois se mettre à la place des acteurs régionaux. Si vous voulez, ils ne sont pas irrationnels. Politique d'Iran est irrationnelle. Et là, effectivement, la rationalité iranienne, ils sont rationnels. S'ils sont convaincus qu'ils ont intérêt à rester dans l'accord, c'est pour ça que tout va se jouer sur les sanctions américaines appliquées ou pas. S'ils sont convaincus qu'ils ont intérêt à rester dans l'accord, là, effectivement, on peut sauver l'accord. Et donc, effectivement, tout va se jouer sur est-ce que les Américains vont appliquer des sanctions extraterritoriales aux entreprises européennes ou pas.
Daniel Simon, pour l'instant, pour l'instant, Trump annonce les sanctions. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment que la France refuse ces sanctions, refuse de s'aligner sur les États-Unis, la position de Monsieur Trump, et au contraire, refuse cette liquidation du droit international, parce que c'est quand même de cela dont il est question de la part de Donald Trump, et joue un rôle véritablement au service de la paix dans la région en proposant, une conférence avec l'ensemble des acteurs de la région. Je pense que c'est cela qu'il faut mettre sur la table. Allez. Et c'est urgent.
Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette édition spéciale. Merci donc à Jean-Baptiste Djebbari de La République en Marche. Merci à vous, Daniel Simonet de La France Insoumise. Merci à Thierry Coville, vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Et merci à ma camarade Isabelle Labéry, la chef du service étranger de France Info. 21h58, suite de cette édition spéciale, vous restez avec nous.